Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Mauvaise nouvelle pour les jeunes de secondaire 5. Les bals de finissants ne pourront pas avoir lieu pour une deuxième année consécutive. On va en parler avec une finissante qui s'appelle Chloé Brideau. Salut Chloé.
Bonjour.
Comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle officiellement?
Honnêtement, j'étais très déçue, très triste. C'est comme un rêve d'enfance que, tu sais, on regarde les filles de secondaire 5 qui chassent leur robe, qui se maquillent ensemble, puis ça a vraiment été une grosse déception de voir que nous autres, on pourra pas vivre ça. Puis aussi, tu sais, on avait comme un peu espoir, étant donné qu'on est retourné à l'école en présentiel à 100%, et les cas diminuent, on a recommencé à avoir espoir. Puis là, on a eu la nouvelle aujourd'hui là qu'il y aurait pas de balle, fait qu'on était vraiment vraiment déçus là.
Chloé, c'est un rêve à tel point que vous vous êtes impliquée là à l'école dans un comité pour essayer de faire débloquer ce dossier là.
Ouais, il y a un comité de l'école qui a été organisé pour essayer d'organiser un bal. C'est sûr que les autres étaient un petit peu sur les stops là, si je peux dire là. Il était comme, ben on va essayer d'organiser quelque chose, mais on vous promet rien. Ça a toujours été très clair qu'ils nous ont jamais rien promis. Je pense que s'ils nous avaient promis quelque chose, ça aurait été, notre réaction aurait été encore pire, là. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est une déception pour plusieurs jeunes. Surtout que on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Fait qu'on se disait comme, hey, il y a peut-être espoir que, comme, on ait peut-être un petit bal, comme juste notre gang, mettons, ou, mais non, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le même état d'esprit que moi, là.
Pour avoir, Chloé, un ado à maison qui lui-même côtoie des ados dans les parcs, est-ce que avec vos amis, vous avez pensé à vous organiser une sorte de bal en marge du vrai bal à l'extérieur?
Oui, on a pensé ça. Et c'est sûr que moi, il y a une petite incompréhension du fait que on va magasiner. On va dans les parcs, on ouvre les parcs, puis on peut faire des rassemblements. Puis je trouve ça un peu contradictoire de dire que comme je peux aller faire la file pendant 2h30 dans un centre d'achat, toucher à plein d'affaires, mais pas avoir de balles. Je trouve ça un petit peu contradictoire. En même temps, je me dis, bon, est-ce que c'est trop, c'est pendant une soirée, puis là, ça va être trop de gestion? Peut-être, je sais pas. Je trouve ça contradictoire, mais en même temps, bon, c'est la santé publique qui a décidé ça, on va le respecter. Mais c'est sûr que l'idée m'a passé de faire comment? On va faire un petit chilling, mettons, là, si je peux dire, là.
Oui, les parents d'ados connaissent cette expression-là.
Un petit
party.
Ouais, puis de dire que comme, hey, on va s'organiser quelque chose, mais en même temps, je sais pas si ça va être possible, là. C'est comme, la santé publique nous offre 6 personnes maximum. C'est moi, dans mon école, on est 500.
Ouais,
c'est quand même un petit peu impossible.
Ça fait beaucoup de sous-groupes, là.
Ça fait beaucoup de sous-groupes, ça fait beaucoup de personnes. Puis je me dis, il faudrait juste que j'invite ma petite gang d'amis, mais encore là, ma gang d'amis, on n'est pas juste 6, là. Fait qu'il faudrait que je coupe du monde. Fait que non, ça, c'est pas dans mon esprit. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, là. Je pense que c'est sûr qu'avec ma meilleure amie, on a eu comme idée de payer un photographe puis prendre des photos à deux. Ça, c'est une idée qui a toujours été là. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Honnêtement, en ce moment, on est comme tout en mode solution, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis l'école a vraiment été correcte avec nous de dire comme, on va vous organiser quelque chose. On va essayer vraiment fort. Je suis sûre qu'on va avoir quelque chose. Mais c'est pas un bal. C'est ça l'affaire.
Merci beaucoup, Chloé, puis bonne chance pour la suite. Bon courage.
Ben merci beaucoup.
Salut.
Bye.
C'était Chloé Brideau, élève de 5e secondaire pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie, ben il y aura pas de bal définissant de secondaire 5. Et je sais, vous m'écrivez à chaque fois que je parle de ça pour me dire « Ouais, mais c'est pas grave, il y a des affaires plus graves que ça. » C'est vrai. Je vais pas tomber dans une concurrence des privations. Mais quand tu as 16, 17 ans et que ça faisait des années que tu l'attendais et que tu as perdu quelques rites de passage qui vont pas revenir, ben quand même, ça fait un petit pincement au cœur et je pense qu'il faut pas déprécier. Travaux de l'enquête publique de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan se poursuivent aujourd'hui. Il y a divers intervenants qui ont fait des recommandations. Parmi eux, le chirurgien Inou Stanley Volant était à la commission. Il est au bout du fil. Docteur Volant, bonjour.
Bonjour, quoi, M. Lagacé.
Merci de nous parler aujourd'hui. Écoutez, vous avez témoigné aujourd'hui et je vous cite, vous avez dit « Je suis tanné des commissions, on connaît déjà les réponses. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bien, on connaît les réponses parce que le sort des Premières Nations au niveau de la santé, les problématiques de racisme systémique sont déjà connues depuis des années et on a déjà des solutions. C'est d'implanter le concept de la sécurisation culturelle dans nos systèmes de santé, c'est-à-dire de former des gens qui sont dans le milieu, dans le domaine de la santé, infirmières, médecins, préposés bénéficiaires et même travailleurs de support dans les hôpitaux pour qu'ils deviennent sensibles, connaissants et compétents pour communiquer avec des gens des Premières Nations et rendre ces lieux-là comme des endroits sécuritaires au niveau culturel, que les gens ne se sentent pas. Je vais donner un exemple. Les gens de ma communauté ne vont pas à l'hôpital à Baie-Comeau. Ils ont peur des préjugés que les personnes peuvent avoir envers eux. Même chose à Sept-Îles, même chose à Joliette. Et souvent, ça retarde les diagnostics. Ça retarde, ça augmente le nombre de complications. Donc, il faut rendre ces lieux-là sécuritaires au niveau culturel, que les gens se sentent connus et respectés.
Accueillis et compris là, dans leur particularité. Mais ça, est-ce que c'est le travail des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des médecins, des hôpitaux, ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des gens des communautés autochtones concernés dans ces hôpitaux-là?
Bien, c'est un mélange de tout. Je pense qu'il faut que le personnel soit formé. Donc, c'est important de faire de la formation. Et au ministère de la Santé, actuellement, ils sont en train de faire un plan avec le Bureau des affaires autochtones au sein du ministère de la Santé de développer un plan d'éducation en sécurité culturelle qui devrait être déployé dans les prochains mois, les prochaines années dans le système de santé au Québec. Et aussi, c'est important d'avoir des agents de liaison autochtones. Il faut avoir des gens qui sont là pour pouvoir aider aux patients autochtones de naviguer dans ce système-là qui est étranger à eux, qui est souvent perçu comme un peu redoutable. Ça fait peur aux gens des Premières Nations.
Vous parlez de sécurisation culturelle, là, ce qui est très concret là, sur le plancher des hôpitaux. Et vous avez aussi dit, Dr Volant, là, devant la commissaire, vous avez dit que c'est important de reconnaître le racisme systémique. Expliquez aux auditeurs qui nous écoutent là, comment ça aurait pu éviter la mort de Joyce Echaquan si c'était reconnu, selon vous.
Bien, si c'était reconnu, les gouvernements, les hôpitaux auraient probablement imposé cette concept de sécurisation culturelle avec aussi des conséquences. Donc, un processus de plainte qui donnerait un levier pour que les gens qui ont des attitudes racistes peuvent, sans les punir, peut-être les éduquer, les amener vers une ouverture à l'autre qui est très, très importante. Je pense que le processus de plainte doit être perçu comme des opportunités d'améliorer la qualité des soins aux patients.
Quelqu'un qui nous écoute, là, okay, qui est de bonne foi puis qui a des réserves sur le concept de racisme systémique, quels sont les mots que vous utiliseriez, Dr Volant, pour essayer de convaincre cette personne-là?
On peut appeler ça discrimination systémique, on peut appeler ça ostracisation systémique. C'est sûr que moi, au niveau du débat sémantique, j'ai un peu dépassé le débat sémantique. Si on doit appeler l'éléphant dans la pièce un pachyderme à grandes oreilles, ben tu sais, puis qu'on fasse un trou pour la faire sortir, je suis bien d'accord de l'appeler pachyderme à grandes oreilles. pourvu qu'on fasse des actions efficaces, que ça change. Je ne veux plus voir d'autres Joyce Echiquan mourir dans les écrans. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je pense que c'est inacceptable en 2021 que des gens meurent dans des circonstances comme ça, tout à fait irrespectueuses. On est une seule société évoluée. Ça ne devrait pas être comme ça en 2021.
OK. Je vous amène sur un autre terrain, là, mais connexe, Dr. Stanley Volant. Là. C'est une histoire qui secoue le Canada en entier. Il y a un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Sur un terrain pas très loin, on a trouvé les cadavres de 215 enfants autochtones qui ont fréquenté ce qu'on appelle les écoles résidentielles en anglais, là, où ces enfants-là étaient assimilés. Ça a été quoi votre réaction en prenant connaissance de cette nouvelle-là?
Malheureusement, on le savait déjà, comme autochtone, qu'il y avait eu une surmortalité dans les pensionnats autochtones au Canada, surtout dans l'Ouest, au Québec un peu moins, mais quand même présent. Durant mes marches, quand j'ai marché avec les Atikamekw de Obidjouan jusqu'à Manoan, les amis me parlaient que dans les années 40, donnaient les enfants sur le bord de la traite de chemin de fer proche de la TUC pour les monter à Amos. Il y a des enfants qui sont pas venus. Ils n'ont jamais su où étaient ces enfants-là. Donc, et dans la commission, il y a plusieurs témoins qui ont parlé d'enfants disparus qui n'ont jamais été retrouvés. Donc, ces 215-là, c'est pas étonnant. Puis, on risque d'en retrouver d'autres dans les prochaines années. Ça témoigne comment cet épisode noir-là de l'histoire du Canada qui nous affecte encore beaucoup les Premières Nations, parce que c'est un traumatisme transgénérationnel d'avoir été abusé sexuellement, physiquement, émotionnellement pendant des générations. Ça a laissé des traces dans nos communautés et qui explique probablement beaucoup les problèmes sociaux qu'on a dans nos communautés.
Merci beaucoup, Dr. Volant, de vous être arrêté sur le bord de la route pour nous parler. Je sais que vous êtes au retour là, de Trois-Rivières. Oui. Bonne journée.
Merci.
Salut. Merci.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Vous l'avez sûrement vu, cette nouvelle-là. C'est une nouvelle qui ébranle un peu partout au Canada. Les restes de 215 enfants ont été retrouvés enterrés sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Ça remet à l'avant-plan là, l'histoire horrible des pensionnats autochtones. Et on va en parler immédiatement avec un journaliste autochtone, vous le connaissez très bien, il est aussi romancier, Michel Jean de TVA. Salut Michel.
Salut.
Michel, écoute, je veux t'entendre. D'abord, là, un peu de pédagogie, OK? Pour les gens qui ignoreraient l'héritage, ce qu'étaient les pensionnats autochtones, résume-nous, c'était quoi?
Bien, les pensionnats, j'aime pas tellement le mot pensionnat parce que, tu sais, ça donne l'impression que ce sont des écoles, donc c'est quelque chose de positif, on voulait éduquer les Autochtones, mais en réalité, les pensionnats autochtones ont été créés pour assimiler les Autochtones. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les jeunes à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans, on les amenait de force, les parents s'y opposaient, dans des établissements qui étaient habituellement situés très loin. Il y en a eu 6 au Québec. Par exemple, moi, chez nous, à Mastouillache, les jeunes dans ma famille, plusieurs m'en ont parlé, étaient amenés dans une île qui est maintenant près de Chicxulub, à Fort-Georges, 700 kilomètres environ en ligne droite en avion, dans la baie de James. Et là, on les amenait, puis là-bas, l'objectif, en réalité, c'était de leur apprendre à devenir blancs, d'une certaine manière. Dans la loi, c'est écrit « tuer l'Indien en eux ». Donc, l'idée, c'était de prendre ces jeunes-là, les endoctriner. Alors, comment ça marchait? C'est quand tu débarquais de l'avion, ils comptaient les jeunes, par exemple, à Fort-Georges. Puis quand tu étais, mettons, le 32e, ton nom pour l'année, c'était 32. Tu t'appelais pas Patrick, Michel, Sophie. Tu étais 32. Tu n'avais pas le droit de parler ta langue. Puis tu te faisais dire par les prêtres, les professeurs, que tout ce que tes parents t'avaient appris, c'était sauvage, arriéré. Et ça a eu des impacts extrêmement importants chez les jeunes. Et puis il y a aussi eu toute une série de sévices qui sont arrivés, sexuels, physiques. Dans certains cas, il y a eu des épidémies de maladies dans les pensionnats et les jeunes mouraient par dizaines. On construisait à côté des pensionnats des cimetières où on enterrait les enfants à mesure. C'était pire, semble-t-il, dans l'Ouest canadien, mais on ne sait pas au Québec jusqu'à quel point c'était difficile. Donc, le dernier pensionnat, ça commençait dans les années 1800, mais le dernier a fermé ses portes en 1996, près de Regina, en Saskatchewan. Donc, c'est quelque chose qui a continué jusqu'à encore récemment.
Michel, il faut insister là-dessus. Les familles autochtones avaient aucun droit de regard, là. On arrivait dans la communauté, on prenait les enfants tout simplement, là.
Ouais, pis si les parents s'opposaient, la police ramassait les enfants et les amenait. C'était pas quelque chose qu'on vous donnait le choix. C'était on prend les enfants, on les amène. Pis c'était comme ça dans tout le Canada. Ça a pas été. Puis c'était on l'imagine facilement quand on prend. Mais tu sais, imagine ce que ça représente, des communautés autochtones où déjà les gens avaient été sédentarisés de force, puis se retrouvaient dans des villages où il y avait plus d'enfants. Des villages pas d'enfants. Dans quel état d'esprit vivaient ces parents-là?
Et Michel, il faut le dire, quand les enfants revenaient à la fin de l'année, on va mettre scolaire entre guillemets, il y en a qui n'étaient pas là. Et bien souvent, ils ne parlaient plus la langue de la communauté.
Mais non, parce qu'on leur disait de ne pas le faire. C'est comme ça que les langues ont commencé à se perdre dans beaucoup de communautés. Puis oui, il y en a qui disparaissaient aussi. Moi, je le raconte dans Cocom, mais j'ai la cousine de ma mère qui était au pensionnat, elle était jeune. Et puis, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Mm. De quoi, on ne sait pas. Ils l'ont envoyée à Montréal. Mais elle n'est jamais revenue. Et la famille n'a jamais su où même elle avait été inhumée. Donc, la cousine de ma mère, Jeannette, a découvert qu'elle avait été inhumée au cimetière de Ganawaki dans une fosse commune. Alors maintenant, le lieu de recueillement, c'est d'aller là-bas. Puis, Jeannette avait rapporté des pierres à les enterrer dans le cimetière. Il y a une symbolique des pierres qu'elle avait prises à Fort-Georges. Mais ça, c'est une histoire, mais il y en a combien de ces histoires-là? Et les gens ont à vivre avec ça depuis toujours. Puis l'autre affaire qu'il faut savoir aussi, c'est que, pour avoir lu plusieurs thèses sur le sujet, là, quand je préparais des livres, c'est que les problèmes sociaux que l'on voit dans les communautés autochtones, la violence, l'alcoolisme, la consommation, tout ça, ça apparaît pas longtemps après l'apparition des pensionnats. Parce que, tu sais, quand tu sors des enfants de leur milieu, tu les fuck d'une certaine manière. Puis quand ils retournent, les relations avec les parents sont difficiles. Alors, les gens regardent aujourd'hui des fois les communautés autochtones en disant « Ouais, tu sais, c'est croche, c'est comme... » Vous savez quoi? C'est la société qui a rendu ces communautés-là comme ça. Elles n'étaient pas comme ça avant. Et tout ça, c'est le bel héritage qu'on a des pensionnats autochtones.
Et c'était au cœur du film de Robert Mondry et de Richard Desjardins, « Le peuple invisible ». Et hier, Stanley Volant était ici, Michel. Il a parlé de ça, de ce que tu décris là, comme d'un traumatisme transgénérationnel. Je veux dire, il y a un lien direct entre les Autochtones qu'on voit à Montréal, là, sans-abri, toxicomanes. On peut dire ça qu'il y a un lien avec l'héritage des pensionnats.
Clairement, parce que, comme je disais tantôt, ça a eu des impacts et les blessures, elles sont encore présentes aujourd'hui. Je veux dire, quand Le Vent parle encore, mon roman que j'avais écrit sur le sujet paru en 2013, Patrick, il y a une jeune fille de 18 ans qui m'a écrit de WhatsApp. Il faut savoir que les Autochtones ne sont pas plus au courant de ça non plus, hein, parce qu'ils vont dans les mêmes écoles que les autres. Puis elle me dit, elle me remerciait pour le livre. Elle avait lu Le Vent parle encore, puis elle me disait, je vous remercie, M. Jean, parce que moi, je les ai jamais aimés, les ex-pensionnaires. Puis on peut comprendre, toutes sortes de problèmes, il y a ça. Mais elle dit, là, maintenant, je comprends pourquoi ils sont comme ça. Merci. Alors, c'est la réalité, ça aussi.
Michel, l'histoire des pensionnats a commencé à être plus connue récemment. Il y a eu la commission Vérité-Réconciliation. Ouais. Il y a toutes sortes d'histoires dans les médias. Pourquoi est-ce que les 215 cadavres d'enfants du pensionnat autochtone de Kamloops frappent à ce point l'imaginaire aujourd'hui?
Parce qu'on dirait que ça prend toujours un événement pour que les gens réalisent. Parce qu'on en parle depuis longtemps, des pensionnats. Tout ce que je te disais, Patrick, j'en ai déjà parlé. Les gens, oui, c'est dans l'histoire passée, loin, on n'a pas l'impression. Parce que ça prend quelque chose qui l'incarne. Joyce Echaquan, avant la mort de Joyce, hein, les Autochtones et les Atikameks en particulier, se plaignaient depuis longtemps de mauvais traitements avec les dans les hôpitaux. Quand les femmes autochtones à Val-d'Or se sont plaintes des agressions, il y a une cinquantaine, on a cru aucune, on a cru toujours les policiers. Puis personne n'a cru, même si les témoignages étaient concordants, même si, tu sais, ça prend, comme on dirait, quelque chose quelque part qui incarne un événement pour que les gens réalisent qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est un peu la même chose avec ces 215 cadavres-là. Tu sais, quand la commission Réconciliation a fait son rapport, ils ont évalué à un peu plus de 4 000 le nombre d'enfants autochtones disparus dans les pensionnats. puis on pense que le vrai chiffre est plus proche de 6 000. Mais tu sais, juste dire 4 000 enfants disparus, ça aurait dû être assez pour qu'on se lève, pour dire « wow, qu'est-ce qui se passe? » Mais non. Et là, on arrive, on a quelque chose qui l'incarne, et là, les gens disent « ça n'a pas de bon sens, on est tués, c'est des enfants. »
Michel, bon, parfois, j'ai envie de te demander, quand tu vois une nouvelle comme ça, comment tu reçois ça? Comment tu vas?
Ben, moi, je trouve ça... Je pense que j'ai perdu, j'entends pas, mais je sais que vous m'entendez, mais moi, je perçois toujours ça comme quelque chose. À chaque fois, c'est une blessure. Ça nous rappelle que les blessures du passé, elles sont encore là. Puis, on peut bien dire, à un moment donné, que, tu sais, comme la question du racisme systémique, que le gouvernement refuse de reconnaître, c'est quand les Autochtones disent « on vit le racisme systémique », mais que les Blancs leur disent « ben non, vous ne le vivez pas, c'est pas ça, ça n'existe pas au Québec ». C'est le genre de réalité avec laquelle les Autochtones sont encore aujourd'hui obligés de vivre. Et quand arrive un événement comme ça, ça te rappelle, ça te rappelle ce genre de choses-là. Et évidemment, tu sais, ça gratte le bobo encore un peu plus.
Merci Michel, lâche pas, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça fait plaisir, Patrick, salut là.
Qu'on va avoir un bel été chaud, un été pluvieux. Comment ça va se passer? On va parler de tout ça avec Patrick de Bellefeuille, météorologue à Météo Média et expert en changement climatique. Patrick, bonsoir.
Bonjour, M. Lagacé.
À quoi va ressembler l'été?
Écoutez, on va le qualifier de presque parfait. Je m'explique. D'abord, il faut penser que tout ça, il y a une question de perception. C'est-à-dire que presque parfait pour vous, c'est probablement pas presque parfait pour moi.
C'est bien vrai.
Il y en a qui, à 38 du MIDEC, qui sont super contents. Ils ont une piscine et tout. Moi, à 23, je commence à faire « ouais, il faut que je trouve une solution ». Fait que ça, c'est sûr pour ça qu'on a utilisé presque parfait. Mais en général, ce qu'on veut dire, c'est qu'un été qui sera comme on les aime, il y aura quelques problèmes dont je vous parlerai dans un instant, mais un été qui va être beau, un été qui va être chaud, un été qui va être très correct. L'an dernier, c'est pour ça qu'on veut le comparer à l'an dernier, parce que c'est ce qu'on a de plus près pour se souvenir. L'an dernier, au Québec, on a eu 6 canicules. Ça, c'est beaucoup. La moyenne, 2 à 4.
Okay.
Cette année, on ne prévoit pas avoir 6 canicules, on prévoit moins que ça. Hein? Donc, on va donc avoir du temps qui va être encore chaud, on prévoit que c'est au-dessus des moyennes saisonnières, mais les grandes poussées de chaleur qu'on a connues l'an dernier ou même pendant l'été 2016, ceux-là, on les aura peut-être beaucoup moins. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on prévoit un été qui sera chaud, des canicules, il va en avoir. Vous savez que la dernière fois qu'il n'a pas fait 30 degrés à Montréal pendant un été, c'était en 1992. Donc, c'est sûr, les 30 degrés, là, c'est sûr qu'il va en avoir, mais moins que ce qu'on a connu l'an passé. Côté précipitation, c'est là où le bas blesse peut-être un petit peu. C'est-à-dire qu'on commence déjà avec un mois de mai qui est le plus sec de toute l'histoire depuis qu'on prend des données météorologiques à Montréal. Et donc, déjà, on est en déficit de précipitation notable. Ça a une incidence sur les cultures, ça peut avoir une incidence sur les feux de forêt, tout ça, c'est sûr. Mais on ne pense pas non plus qu'on va rattraper nécessairement ça. On pense qu'on va garder une moyenne de précipitation qui sera normale, mais les précipitations seront largement entrecoupées de longues périodes de sécheresse et pas de déluge, mais de moments où tout d'un coup, on reçoit pas mal de pluie. Je vous donne un exemple. Supposons que, et là, je vous donne un chiffre fictif, là, mais supposons que pendant juillet, on reçoit 70 mm de pluie à Montréal en moyenne. Mais si le 70 mm de pluie tombe en 2 jours, les 10 et 11 du mois de juillet, puis que tout avant et tout après, il ne pleut pas, c'est pas la même chose que si ça avait plu 70 mm de pluie tranquillement. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. C'est-à-dire, moins chaud que l'an passé, mais encore chaud, puis bel été comme on les aime. Côté précipitation normale, mais en sécheresse qui reçoit des coups de pluie.
Hey, j'aime ce que j'entends. Merci beaucoup, Patrick Bellefeuille.
Plaisir, bonne journée.
Salut, c'était Patrick Bellefeuille, météorologue à Météo Média. Donc, si l'été est chaud et sec, qu'est-ce que ça veut dire du côté des moustiques? Parce que c'est bien le fun, sortir dehors, prendre la fraîche le soir, mais si tu te fais bouffer par les moustiques, ça peut être un peu moins le fun. On en parle avec Richard Vadeboncœur, biologiste chez GDG Environnement, spécialisé en contrôle biologique d'insectes piqueurs. Monsieur Vadeboncœur, bonsoir.
Oui, bonjour.
Donc, moins de pluie, ça va être sec. Est-ce que c'est un été, ça annonce un été de bébite ou moins bébiteux?
Ben, c'est moins de bébite, effectivement. Déjà au printemps, c'est relativement sec. Un couvert de neige qui était faible, moins d'eau. Donc, les premières constatations, là, la première cohorte là, des espèces printanières, hein, il faut savoir qu'on a à peu près une soixantaine d'espèces de moustiques au Québec, certains qui vont émerger au printemps, d'autres un peu plus tard en été. Mais déjà, là, les premiers moustiques de printemps étaient un petit peu moins nombreux. Et comme disait M. Bellefeuille avant, si on a un été relativement sec, et surtout dans la fréquence des précipitations, parce que si on a 70 mm et que c'était sec avant, sec après, que ça disparaît, bien, il n'y a pas de petites mares qui se forment assez longtemps là, pour assurer le développement des moustiques. Ça prend à peu près 6 jours que la mort soit en nous là, pour avoir une des nouvelles générations. Fait que c'est ça qui va nous donner la réponse au cours des prochains mois. Si on a des petites morts qui perdurent pendant plusieurs jours, si c'est arrosé fréquemment, bien là, on va avoir des petites bestioles autour de la tête davantage.
Mais le fait qu'on ait eu moins de neige, le fait qu'on ait eu un mois de mai extrêmement sec, là, Patrick de Bellefeuille le disait, là, c'est le mois où il y a eu le moins de pluie depuis qu'on tient des archives. Ça, c'est bon, entre guillemets, pour les bébites, c'est-à-dire qu'il y en aura moins, là.
Ah ben il y en a moins. Les premières cohortes, comme je disais, sont moins importantes. Par contre, ça, c'est les espèces printanières. Ces moustiques-là vont vivre quelques semaines, mais habituellement, ils sont remplacés dans l'été par d'autres espèces estivales qui, elles, sont modulées par les précipitations. Fait qu'on, c'est difficile à ce moment-ci de prédire, en fonction des pluies qu'on va avoir en juillet ou au mois d'août et tout ça, si on va avoir beaucoup de moustiques. Par contre, on peut ramener aussi comme sujet que virus du Nil occidental ne rime pas avec quantité de moustiques, mais bien avec chaleur. Si on a l'été auquel on nous annonce, on aura peut-être davantage de cas de virus du Nil occidental. Fait qu'il faut garder en tête que c'est la chaleur qui module la charge virale et qui fait que les moustiques là, vont être davantage vecteurs de maladies. Et les étés chauds, ben, on a davantage de cas humains. Faut garder ça en tête. Et c'est en juillet où le virus du Nil est transmis par les moustiques.
Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir.
Ça me fait plaisir.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
OK, il y a 7 jeunes femmes qui briguent des postes de mairesse qui ont fait une sortie publique là, récemment pour inciter les femmes, surtout les jeunes femmes, à se présenter au municipal en novembre prochain. Il s'agit de Evelyne Beaudin, candidate à la mairie de Sherbrooke, Virginie Proulx à la mairie de Rimouski, Julie Bourdon à Granby, Maude Marquis-Bissonnette à la mairie de Gatineau, Jackie Smith, candidate à la mairie de Québec, Annie Veillette, candidate à la mairie de Matane, et Catherine Fournier, actuelle députée de Marie-Victorin, candidate à la mairie de Longueuil. On va accueillir deux de ces candidates, il s'agit de Catherine Fournier et Évelyne Beaudin. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir.
Donc, Évelyne Beaudin, vous êtes conseillère municipale depuis 2017 à Sherbrooke. Catherine Fournier, vous êtes députée indépendante et indépendantiste de Marie-Victorin. Écoutez, il y avait Elsie Lefebvre aujourd'hui dans sa chronique du Journal de Montréal, ex-conseillère municipale, ex-députée au provincial, qui parle d'un effet Valérie Plante pour expliquer le nombre de femmes qui sont intéressées pour novembre prochain à se présenter au municipal. On va commencer avec vous, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a un effet Valérie Plante?
C'est clair que les modèles sont importants en politique, puis je suis certaine qu'Evelyne sera d'accord avec moi pour dire que c'est une des raisons aussi pour laquelle on a décidé de sortir les 7 femmes ensemble, parce qu'on est candidates à la mairie et on croit évidemment que ça prend plus de femmes, plus de jeunes femmes en politique, et en montrant que c'est possible de faire le saut, en montrant qu'il y en a qui sont déjà sur le terrain à l'heure actuelle, on espère avoir un effet boule de neige, puis que ça incite justement davantage de femmes à se porter candidate à cette élection-ci ou encore évidemment pour une élection future.
Évelyne Beaudin, ça a une importance, les symboles, les modèles, qu'importe ce qu'on pense de Valérie Plante, c'est quand même la première mairesse de Montréal.
Absolument, on brise des plafonds de verre, comme on le dit couramment. Puis, mais cet engouement-là, en fait, il touche pas seulement les femmes, il touche tout le monde. On voit que le municipal, les gens comprennent que ce sont nos milieux de vie, que c'est l'endroit où on vit en communauté. Donc, l'accès aux rues, aux parcs, les espaces publics, la bibliothèque, ce sont des éléments importants dans nos milieux de vie. Et donc, ça vient susciter un engouement chez tout le monde, notamment chez les femmes, et on voit que ça fait apparaître des nouveaux visages, notamment les nôtres là, qu'on a vus dans les médias cette semaine.
Catherine Fournier, pourquoi c'est important? Je sais que c'est une question de base, là, puis n'y lisez aucun billet, là, mais pourquoi c'est important qu'il y ait plus de femmes en politique?
C'est important d'avoir une plus grande représentativité parce que les prises de décision politiques, elles affectent tout le monde. Et pour ça, bien, il faut qu'il y ait autour de la table, justement, des personnes qui représentent les différentes réalités. Donc, si on a juste un profil de personne en politique, bien, on risque peut-être d'oublier certaines réalités en cours de route. Donc, c'est pour ça que la présence de femmes en politique est importante, la présence de gens de différents profils, de différents âges, de différentes origines également. Puis, c'est prouvé, en fait, que la diversité en politique comme ailleurs est à la source d'une plus grande créativité et, dans notre cas, bien, des meilleures idées pour les communautés, pour la société en général. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement positif.
Évelyne Beaudin, vous êtes conseillère municipale à Sherbrooke depuis 2017. Pourquoi vous voulez être mairesse maintenant?
C'est un peu le chemin qu'on veut prendre pour donner la place, je dirais, aux nouvelles idées, à la nouvelle génération. On sent que les gens veulent du changement, puis ce qui est agréable quand on est une femme en politique, parfois on oublie les avantages qu'il y a d'être une femme en politique, c'est que vu que c'est quelque chose auquel on est moins habitué, c'est plus facile d'incarner le changement. Et ce qui est agréable là-dedans, c'est que c'est justement ça qu'on veut amener, du changement. On a des défis de société importants qu'on pense évidemment à la lutte au changement climatique, mais tous les défis aussi liés au vivre ensemble, ce sont dans nos communautés, dans nos villes, dans nos espaces publics qu'on va leur apporter des solutions. Donc, c'est pour ça que c'est un avantage d'être une femme pour pouvoir faire la promotion du changement. Puis c'est ça qu'on veut apporter finalement avec Sherbrooke Citoyen, avec le parti que j'ai contribué à fonder à Sherbrooke.
Madame Beaudin, il y a des cyniques qui pourraient dire que promettre le changement, c'est de la vieille politique.
Possiblement. Ce qui est agréable, c'est que quand ça fait déjà 4 ans qu'on est élu, on a pu montrer que ça voulait dire de faire de la nouvelle politique. Ça fait 4 ans que je me bats. D'ailleurs, on en a déjà parlé sur vos ondes par rapport à la transparence, inclure les citoyens et les citoyennes dans nos prises de décision. Les gens veulent être consultés. Ils veulent plus que nos hôtels de ville soient des milieux fermés où tout se décide à huis clos par une poignée d'individus. Ils veulent faire partie de la solution, de la recherche de solutions. Donc, c'est ce qu'on a fait avec notre parti Sherbrooke Citoyen depuis 4 ans, puis ça va juste se prolonger dans les 4 prochaines années si on est au pouvoir comme on le souhaite.
Madame Fournier, vous avez souvent pris la parole pour dénoncer, disons, le côté très vitriolique des commentaires sur les médias sociaux. Et là, vous incitez les femmes à se présenter, mais cette réalité-là que vous avez décrite, ça ne donne pas envie de mettre sa face sur un poteau en même temps.
C'est certain que c'est un défi, puis je pense qu'on doit pas se le cacher. En même temps, moi, je crois au retour d'une certaine bienveillance sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que le fait qu'on a réussi à en parler ces derniers mois, oui, ça a été difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole pour dénoncer justement des comportements inacceptables sur les réseaux sociaux. Donc, j'ose croire qu'on va assister à un retour du balancier, mais la solution, c'est certainement pas non plus d'abandonner puis de laisser toute la place aux trolls de ce monde. Donc, je pense que c'est important d'être là, de montrer qu'on est capable de faire les choses différemment. Faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir commenter négativement sur les pages là, des hommes et des femmes politiques parce qu'ils ont perdu confiance dans la politique en elle-même. Puis comme le dit très bien Evelyne, qu'on souhaite, du moins notre groupe de femmes, c'est apporter un changement vers plus de transparence, vers plus d'éthique, d'intégrité, qui va permettre d'impliquer davantage les citoyens également dans les prises de décision. Et ça, bien, ça va participer à rétablir la confiance. Donc, c'est sûr que ce sont des processus qui s'étalent sur le long terme, mais c'est un changement auquel on a vraiment envie de contribuer et auquel on invite également la population à s'intéresser.
Évelyne Beaudin, c'est quand même difficile, la vie politique, là. Même avant les médias sociaux, c'était difficile. Votre meilleur argument à une jeune femme qui aurait lu l'appel que vous co-signez avec vos 6 camarades, là, votre meilleur argument pour convaincre une jeune femme qui hésite à se lancer en politique, ce serait quoi?
Je dirais que c'est de témoigner que c'est de loin le travail le plus motivant, le plus agréable. C'est la plus belle job qu'on peut avoir dans la vie, de faire de la politique. Moi, je me réveille le matin, j'en reviens pas d'être payée pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire aider les gens. Oh, absolument. J'adore ce que je fais parce que on est, puis bon, encore une fois, je parle de cette génération-là, on est des gens qui cherchons du sens à ce qu'on fait. On veut avoir l'impression de faire une différence dans la vie des gens. Puis quoi de mieux que d'être en politique, d'être assis dans le siège où les décisions sont prises, des décisions qui vont avoir des impacts pour les 30, 40 prochaines années directement dans nos milieux de vie. C'est absolument stimulant, puis c'est de loin le plus beau travail que j'ai eu. Moi, je souhaite ça à tout le monde, puis c'est pour ça qu'on a lancé cet appel-là cette semaine.
Bien, merci à vous deux, puis bonne chance pour les élections au mois de novembre prochain.
Merci.
Vous avez sans doute entendu parler là, de ce qui s'est passé à la fin du match Canadien-Jets hier. Jake Evans, alors qu'il contournait le filet désert pour mettre la rondelle dans le but Jake Evans du Canadien, a été frappé comme un train par Mark Scheifele des Jets de Winnipeg. C'est une scène qui est terrifiante. Notre joueur du Canadien, Jake Evans, a subi une commotion cérébrale. C'est confirmé. Quant à Scheifele, lui, il attend toujours la décision du préfet de discipline de la Ligue nationale. Est-ce qu'il va être suspendu? Si oui, combien de matchs? Et ça pose la question de la sécurité des joueurs dans ce match, dans ce sport de contact, dans ce sport très rapide. Et on va en parler immédiatement avec quelqu'un qui s'y connaît. C'est un joueur actif de la Ligue nationale. Vous le connaissez bien. Christopher Letang est défenseur des Penguins de Pittsburgh, gagnant de 4 Coupes Stanley. Christopher, salut!
Salut, ça va?
Ça va. Écoute, je me demandais, quand tu as vu les images, ton analyse de joueur qui est encore actif dans la Ligue nationale, ça a été quoi?
C'est dur, honnêtement, quand tu n'es pas vraiment au niveau de la glace en tant que joueur, parce que les choses sont beaucoup, beaucoup plus rapides quand tu es sur la patinoire. Mais en regardant, c'est sûr qu'en premier regard, tu t'inquiètes pour le joueur qui est blessé sur la patinoire. C'est la première chose qu'on, en tant que joueur, qu'on essaie de porter attention. T'sais, tu veux jamais voir un coéquipier ou un adversaire qui est sur la étendu sur la patinoire sans bouger. Donc, on pourrait dire un peu sonné, si on peut utiliser le mot. Mais après ça, j'ai eu la chance de revoir l'incident, d'essayer de l'examiner plus approfondi. Puis pour moi, c'est sûr que il faut que j'y aille par le livre des règlements d'une mise en échec. Est-ce que Scheifele a soulevé ses patins de la patinoire? Est-ce qu'il a frappé avec son coude? Est-ce que la tête est un point de contact? Parce qu'on parle souvent des blessures à la tête qui devient un problème dans notre ligue. On veut toujours penser à la santé des joueurs. Donc, c'est une des choses très importantes. Puis selon moi, au ralenti, je vois vraiment sa tête qui est un point de contact vraiment primaire. Donc, pour ça, ça devrait être une suspension uniquement. Les autres choses vont être à valider avec la Ligue nationale, bien entendu.
Comment, de façon générale, Christopher, là, comment c'est traité, comment c'est vu un coup comme ça? Est-ce que c'est vu dans les vestiaires là, comme un risque du métier ou c'est vu comme un geste qui ne devrait pas exister?
Honnêtement, les gens ne peuvent pas comprendre à la vitesse que ce sport est joué. On voit le football est à pied avec probablement la moitié de la vitesse dans laquelle on exécute notre sport à nous. Puis souvent, notre sport, les joueurs vont dans deux directions différentes, donc ça fait en sorte que l'impact est encore plus grand. Des accidents, ils vont en arriver. Que ça soit un gars comme Scheifele, que je connais, que j'ai eu la chance de jouer contre, de faire des camps d'entraînement avec lui, c'est un joueur qui ne chercherait jamais à blesser un autre.
Il n'est pas vu, Christopher, comme un joueur salaud, c'est ça?
Non, pas du tout. T'sais, c'est pas vu comme un Tom Wilson ou un joueur comme ça. Donc, tu sais, je pense pas que Scheifele a aucune suspension ou amende à son résumé. Donc, mais le problème, c'est qu'on devrait pas prendre en considération ce que le joueur a fait précédemment. On devrait juste analyser ce qu'il a fait hier. Parce que c'est pas parce que tu l'as pas fait ou que tu l'as fait que c'est dangereux ou non. Le problème, c'est que la santé d'un joueur est toujours en péril. Donc, on veut protéger nos joueurs. On veut faire en sorte que ces gars-là n'auront pas des problèmes après leur carrière avec leur tête.
Mais trouves-tu, Christopher, qu'il y a comme... Le message qui est envoyé par les suspensions, les pénalités monétaires est somme toute assez léger. Tom Wilson t'en parlait, là, il a failli décapiter un joueur. Et écoute, il y a eu une amende de 5 000 $, quelques matchs de suspension, c'est tout. Si des gestes comme ça étaient punis par des 10, 20 matchs de suspension, est-ce que les joueurs seraient plus disciplinés?
Oui. Sauf que il y a toujours un sauf et il y a toujours un mais. Si les suspensions deviennent aussi grandes, est-ce que le sport va être aussi excitant pour les gens, pour les amateurs? Parce qu'on parle souvent que les amateurs sont les gens qu'on essaie de faire plaisir, on essaie de leur donner un bon spectacle, quelque chose d'excitant sur la patinoire, quelque chose de rapide. Il y a beaucoup de gens, tu sais, ils aiment encore les combats, ils aiment encore les grosses mises en échec percutantes, les choses spectaculaires. Donc, est-ce qu'en mettant des suspensions de 20 matchs, ces grosses amendes là, est-ce que plusieurs joueurs qui jouent un style robuste vont être encore parmi la Ligue nationale? Est-ce que ça va être aussi excitant pour les partisans de voir aucune mise en échec? Est-ce que c'est...
Mais attends. Toi, tu penses que s'il y a des plus grosses suspensions, des plus grosses amendes, il n'y aura plus de mise en échec? Il va en avoir encore, mais peut-être que les joueurs vont se discipliner, non?
Ça va, ce qui va arriver, c'est que ça va réduire le nombre de mises en échec, ça, c'est certain. Ça va enlever les joueurs robustes de la Ligue. Tu sais, avant, dans chaque équipe, tu avais un ou deux, on va appeler ça policiers, oui. Tu sais, un gars qui se bat. Maintenant, c'est quelques équipes qui en ont un, puis il faut qu'il soit capable de jouer au hockey, qu'il soit capable d'amener une bonne présence sur la patinoire d'environ 10 à 12 minutes par match. Donc, ces joueurs-là, on les voit disparaître de plus en plus. Moi, je pense que c'était une bonne affaire de les avoir de notre côté. Moi, j'ai toujours voulu avoir un gars comme ça dans mon équipe parce que, justement, ça gardait les gens, les joueurs honnêtes sur la patinoire. Ça faisait en sorte que si tu faisais un geste comme hier, tu allais payer le prix, pas non seulement en suspension, mais tu avais un joueur qui était là pour ça. Donc, je trouve que maintenant, avec le fait qu'on ne prône plus ces styles de joueurs-là, on veut moins de combats, ça l'a quand même enlevé ces postes-là dans les équipes pour ces joueurs-là. Mais là, si vous me parlez qu'il va y avoir des grosses suspensions. Mais la raison exactement pourquoi je dis ça, c'est que la ligne est tellement fine entre une mise en échec légale et illégale, avec la vitesse des joueurs, le fait qu'ils sont sur une lame de patin, le fait qu'ils soient toutes de grosseur complètement différente et de vitesse différente, c'est très dur de vraiment calculer ta mise en échec.
Ce que j'entends, Christopher Letang, c'est que ça ne va pas changer.
Moi, je pense que ça ne change. Je pense pas, non. Moi, je crois que le comité de discipline va prendre l'exemple de hier soir. Ils vont faire le même processus que moi. Ils vont analyser les points clés d'une mise en échec légale et d'une mise en échec illégale. Ils vont asséner la suspension sur les points qui sont illégaux.
As-tu une prédiction de match de suspension?
J'avais prédit, je vais m'arrêter à 3, j'avais prédit entre 2 et 3, puis comme j'ai dit, je n'ai pas vu l'autre angle. Il y a des angles que je ne vois pas, ça pourrait encore plus clarifier ce que je pense, mais il ne faut pas oublier que on ne peut pas commençait à étudier « Ah, il y avait beaucoup de vitesse » ou « Ah, le match était fini. » Le match était sur la ligne. Donc, si Evans marque, le match est fini. S'il ne marque pas, peut-être que les Jets sont capables de marquer. Il restait une minute exactement. Mais moi, je ne veux pas l'analyser comme ça parce que justement, ça l'enlève une opinion qui est juste.
Je comprends.
J'aime mieux juste regarder le geste. Regardez les points, puis comme je l'ai dit, moi, j'ai vu que le coup était porté à la tête, c'est dangereux. Evans va
j'espère, je touche du bois qu'il va être correct, capable de s'en remettre rapidement.
Merci beaucoup, Christopher. Plaisir de te parler.
Merci à vous.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.